Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous, éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 23 octobre 2025. Adoption officielle de la directive européenne relative à la surveillance et à la résilience des sols. Qu'est-ce qu'un sol résilient? Comment cette directive pour la surveillance et la résilience des sols peut être bénéfique aux écosystèmes présents en Europe? Plus globalement, qu'est-ce que les sols représentent dans la gestion des crises écologiques, sociales et économiques que nous traversons actuellement? Et dans notre région Hauts-de-France, ils en sont où les sols? Une chose après l'autre. Déjà, définissons ensemble un sol. Les sols sont issus de l'altération des roches, sous l'effet du climat, du relief et des organismes vivants. Ils forment un peu l'épiderme de la Terre et sont considérés comme une ressource non renouvelable à l'échelle humaine. La formation d'un centimètre de sol peut prendre jusqu'à 1000 ans. L'épaisseur du sol peut varier de quelques centimètres à quelques dizaines de mètres ou plus. Il est le lieu d'une intense activité biologique. Racines, faune, les petits animaux et micro-organismes. Les sols en bonne santé peuvent séquestrer près de 20 000 mégatonnes de carbone en l'espace de 25 ans, soit 10% de plus que les émissions de gaz à effet de serre. Le stock de carbone organique contenu dans le premier mètre de sol au niveau mondial est supérieur au stock de carbone organique de la biomasse végétale et de l'atmosphère réunie. On estime qu'un gramme de sol renferme environ 1 milliard de bactéries et entre 2000 et 10 000 espèces bactériennes. L'abondance des champignons et leur diversité est très forte. 1 mètre carré de sol de prairie, permanente, sur une profondeur de 10 cm, abrite plusieurs kilomètres d'ifs, vous savez, les filaments de champignons, dont des ifs mycorhiziens. Pour rappel, 90% des espèces végétales sont mycorhizées. La grande menace de ces filaments porteurs d'eau, de nutriments, d'informations et d'échanges symbiotiques divers, et bien entendu le fongicide, produit tueur de champignons, mais également le labour profond, arracheur de ces circuits de champignons symbiotiques. Sans eux, la plante n'est rien. Lorsque vous cherchez à savoir ce qu'est un sol résilient, vous tombez sur les revêtements de sol, qui résistent mieux au passage des engins. Bon, côté pédologie, la science des sols, la définition d'un sol résilient est avant tout basée sur son activité biologique et la diversité des habitants qui y gravitent. Préserver la biodiversité dans les sols et dans tous les autres milieux aquatiques et terrestres d'ailleurs est la garantie que ces sols seront en capacité de résister plus facilement à des événements climatiques extrêmes et à des perturbations anthropiques diverses. Alors comment favoriser ce petit monde pour éviter la formation de déserts? Commencer par ne plus les tuer avec des produits divers est un bon début, auquel il faudrait également retirer la pratique de travail des sols en profondeur. Et oui, les bestioles s'avisent surtout dans les 30 premiers centimètres, donc mollo sur les crevasses profondes, sinon on arrachera tout le circuit des filaments et les ressources qui vont avec. L'AFES, l'Association française d'études des sols, une asso scientifique depuis 1934, le rappelle, grâce à une gestion durable des sols, nous pourrions produire jusqu'à 58% de nourriture en plus. La préservation des sols est essentielle donc, afin de réaliser l'objectif fin zéro à travers le monde. Et oui, car 95% de nos aliments viennent bel et bien des sols. Revenons à notre actu du jour. La directive relative à la surveillance et à la résilience des sols a été adoptée ce 23 octobre 2025. Proposée par la Commission européenne en 2023, et après de nombreuses évolutions, le texte avait finalement été adopté par le Conseil de l'Union européenne le 29 septembre 2025, comme le raconte l'épisode Feuille de chou numéro 31. Le Parlement européen vient de l'adopter en séance plénière ce 23 octobre 2025, avec 341 voix en faveur du texte pour 571 votants. La directive entrera donc en vigueur très prochainement. Les États membres disposeront alors de 3 ans pour transposer cette directive dans leur droit national. Pour rappel, le texte prévoit uniquement dans cette version, et contrairement au texte original plus ambitieux, une surveillance et une évaluation de l'état des sols. Pour rappel, le texte prévoit uniquement dans cette version, et contrairement au texte original plus ambitieux, une surveillance et une évaluation de l'état des sols de chaque territoire par les pays de l'Union européenne, qui pourront notamment s'appuyer sur des campagnes de surveillance nationales. Une liste indicative de substances émergentes pour lesquelles des données sont nécessaires est établie, dont PFAS et pesticides, 18 mois après promulgation de la loi. Attention, le texte n'impose pas de nouvelles obligations aux propriétaires et gestionnaires de terres. Suite à cette évaluation de la santé des sols, les États membres devront mettre en place une méthode afin d'améliorer les sols. Ainsi, ils doivent fixer des objectifs durables, non contraignants, adaptés aux différents niveaux de dégradation et aux conditions locales, proposer des mesures de soutien aux gestionnaires des terres, des conseils indépendants, formation, renforcement des capacités, dresser une liste des sites potentiellement contaminés et remédier à tout risque identifié comme inacceptable pour la santé et l'environnement. Concrètement, si on parle crûment, connaître est une étape cruciale afin d'employer les ressources plus durablement. Cependant, l'état de connaissance de l'état de santé des sols en France est bien plus avancé que d'autres pays européens. Ce n'est pas pour autant que notre pays est en capacité de préserver cette ressource. En France métropolitaine, les sols de très bonne qualité agronomique représentent 35% des surfaces agricoles artificialisées entre 2000 et 2006. L'érosion hydrique, l'érosion par l'eau des sols, est estimée à 1,5 tonnes par hectare et par an en moyenne en France, contre 1,1 tonne par hectare par an en Europe. Voici ce que nous confie l'ADEME dans son dernier recueil « Tout comprendre sur la santé des sols ».
L'indifférence de nos sociétés associée à la pression des activités urbaines, agricoles, forestières et industrielles, ou manque de réglementation visant la protection des sols, engendre d'importantes dégradations, pour certaines irrémédiables. Parce qu'un sol de qualité se constitue sur des milliers d'années et ne peut pas se renouveler rapidement, les actions d'aujourd'hui impacteront les générations futures pendant longtemps.
Et notre région Hauts-de-France alors ? Quatrième région la plus peuplée de France, elle se caractérise par l'impact des activités humaines actuelles et passées, industrielles, agricoles et militaires, sur l'environnement, air, eau, sol et habitat. Le changement climatique vient par ailleurs diminuer les capacités de résilience des territoires, avec des effets négatifs sur la biodiversité, l'érosion, l'appauvrissement des sols, la contamination des milieux. L'histoire des Hauts-de-France est marquée par l'industrie et les guerres, notamment au travers des sites et sols pollués. La région concentre 13,5% des sites et sols pollués du pays. Les Hauts-de-France sont la deuxième région française également pour son taux d'artificialisation, avec 11,5% d'espaces artificiels. Tous ces chiffres sont tirés du quatrième plan régional de santé environnement qui tente timidement de contrer la courbe croissante d'artificialisation et d'érosion des sols dans la région. La santé ici, la santé est là-bas, à l'autre bout du globe, pour des humains et d'autres animaux. Il est souvent compliqué d'y voir une autre porte de sortie où l'air, l'eau et les sols demeurent immuables. Tendons un instant la feuille à un récit fantastique des sous-bois de l'Amazonie. Le colibri, le tatou, le chien et le sanglier. Oh, ça,
que meu coração faz quando você se vai.
Au cœur de la forêt amazonienne, un terrible incendie un jour se déclara. Les animaux, terrifiés, contemplaient impuissants l'avancée du désastre. Courant, volant, rampant, tigres et pumas, cerfs, singes et ours, perroquets et toucans, anacondas et serpents corail fuyaient dans le plus grand désordre, tentant par tous les moyens d'échapper au feu. Des êtres humains, qui vivaient depuis toujours parmi eux, couraient avec leurs frères et leurs sœurs à poil, leurs voisins et leurs voisines à plumes, leurs cousins et cousines à sang-froid. Seul un petit colibri s'agitait, emplissant d'eau son bec à la rivière pour en déverser quelques gouttes dérisoires sur les flammes affamées. Le tatou l'observa un moment, avant, trop intrigué pour continuer de se taire, de l'interroger.
« Es-tu fou, petit colibri, de t'obstiner au lieu de fuir ? Sauve tes plumes, car tes maigres gouttelettes jamais n'arrêteront la catastrophe. »«
Je sais !» répondit le colibri. « Mais je fais ma part !»«
Pauvre fou ! Ignores-tu donc que les hommes, par centaines, sont venus dans la forêt pour la brûler, la détruire et cultiver à perte de vue ? Ils ont aussi empoisonné l'eau de la rivière dont tu te sers. »
Mais le colibri était déjà loin et n'avait rien entendu. En quelques minutes d'enjambée habile, le tatou avait contourné le foyer en direction des agresseurs. Près du puissant tout-terrain stationné à l'écart, un chien montait la garde. Il l'interpella.
« Pourquoi restes-tu ici sans rien faire ? Ne peux-tu, comme le colibri, faire ta part, en portant de l'eau toi aussi ?»«
Je ne prends pas parti, moi ! Les hommes me nourrissent, je ne voudrais pas leur causer de tort ! Ils ont certainement leur raison d'agir ainsi ! D'ailleurs, tout ceci ne me regarde pas, dégage le chemin, s'il te plaît !»
Soudain, un sanglier surgit, bousculant le tatou, chargeant en direction des incendiaires.
« Que fais-tu ? »
lui demanda le tatou.
« Ne peux-tu transporter un peu d'eau pour étouffer les flammes, faire ta part comme le colibri ? À mettre les hommes en colère, tu vas attirer leur courroux sur tous les animaux. »«
Je sais, » répondit le sanglier, « mais je fais ce qui doit être fait. Je préfère m'en prendre aux causes plutôt qu'aux conséquences. »
Et il fonça sans plus attendre sur la file de véhicules, perçant les pneus, bousculant les hommes et piétinant leurs outils. Et très vite, la nature retrouva ses droits.
Eu me perdi do teu olhar, não há mais música.
A-t-on besoin de pneus percés par d'autres animaux pour stopper notre folie ? Déracinés nous serons, lorsque le sol ne sera plus que poussière. Et puisque rien n'est encore perdu, certains humains ont choisi de porter haut et fort un autre discours. Sur notre territoire de l'Arageois et du Nord-Pas-de-Calais se déroule depuis octobre dernier la deuxième édition du festival Les Pieds sur Terre. Un festival fertile, poétique et scientifique pour échanger autour des sols. Les sols, mémoire des êtres qui l'ont foulé, accueille ainsi pendant 3 mois, jusqu'au 6 décembre, des visites de fermes paysannes, des ciné-tables rondes, des plantations de haies et des créations de mares, des spectacles vivants, des concerts et autant d'autres occasions de dialoguer en leur nom. Cet événement est un prototype, conçu pour être reproductible sur n'importe quel territoire et aspire à faire grandir notre capacité à s'émerveiller devant les secrets de la matière brune. Plus d'informations en cherchant Festival Les Pieds sur Terre 2e édition sur le net et en lien sur le podcast de cet épisode. Préserver une beauté inspirante est une mission de vie pour bon nombre d'entre nous, face à la réalité cuisante d'un désert de poussière grandissant un peu plus chaque jour.
De là, tout est allé très vite, il s'est retrouvé dans une truite. Le moustachu rempli de fierté pourra bomber le torse ce soir au dîner. Quand sa femme préparera à la crème fraîche le fruit de sa pêche. Notre ami le ver ne faisait pas le fier dans le colon du poisson au milieu des pommes de terre. Et quand enfin on servit le plat, il s'est dit c'est fini pour moi. Les enfants étaient contents, surtout la petite. De tous les poissons, son préféré, c'est la truite. On lui donna la plus grosse part. Oh là là, quelle histoire! Elle qui était triste d'avoir perdu son papy, peut-être fière d'avoir eu en elle un peu de lui. Et plus tard, car la vie est ainsi faite, elle laissera son papy aux toilettes. Il faut être gentil avec les vers de terre, grâce à eux, les morts reviennent sur terre. Il faut être gentil avec les vers de terre, car dans certains d'entre eux, y a nos grands.
Tu y as pêché où, baobab, acajou? Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle feuille de chou, fraîchement cueillie.
Cyprès, pin des landes palissandres, mais l'aise tremble, tremble être noyée.